j'ai 20 minutes. Ça va aller votre couleur?
T'as déjà 18 heures faire là.
Si toi tu payes le quart d'heure,
c'est
bon.
Ouais.
Il faut que Thierry.
Mon problème c'est que j'ai plutôt tendance à être peut-être long.
Si jamais tu me fais des grands signes.
Ils nous ont relâché.
Oui, ils m'ont relâché.
Non, non, c'est intéressant en plus. Mais, ouais,
ah, merci.
Elle a été très chouette, la procureure. Elle a dit non, il n'y a pas de souci. Je vais partir. Je vais commencer. Je vais partir.
Là, bravo d'avoir réussi à
l'équipe. Ah, c'est pas moi, mais.
On va être un.
Ah, ouais. Parfait.
Allô, allô, vous reprenez vos places, s'il vous plaît. Voilà, installez-vous, qu'on puisse parler seul. Une précision, j'en profite pendant que les dernières personnes s'installent pour dire que toutes les présentations seront disponibles à l'exception d'une d'entre elles, dont je vous parlerai tout à l'heure, seront disponibles sur le site plantecité.ch à partir du moment où on les aura mises, nous disons fin de semaine. Contrôlez pour début, ouais, on est déjà fin de semaine, début de semaine prochaine alors. Et il y a l'enregistrement aussi qui sera dans toute sa longueur pour celles et ceux qui ont envie d'y traquer des informations, sur demande, on pourra vous la mettre à disposition. Voilà, merci d'être de retour. On a un petit peu 10 minutes de retard qu'on va essayer gentiment de rattraper durant l'heure et demie qui nous reste, sachant qu'à moins 10, moins 5 au plus tard, on doit vraiment libérer l'espace, puisque à une heure, il y a un cours qui sera donné à votre place. Voilà. Moi, j'ai le plaisir de recevoir, d'accueillir une représentant de la protection des sols, ça y est, pour le canton de Vaud, qui sous le, en la personne de François Fulman, qui a pu nous rejoindre, juste avec, qui s'est arrangé pour être là malgré quelques complications, et que je remercie vraiment d'avoir trouvé le moyen d'être ici, et qui va nous parler de l'importance et de la, du sol, et du sol notamment avec ses capacités de, d'épuration, ce filtre dont on a tellement besoin et qui est un peu au centre du, de la question. Merci François, à toi la parole.
Merci, bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être ici. Pour plusieurs raisons, professionnellement parce qu'on va parler du sol, de sa fonction dans la cité, autour de la cité, et personnellement aussi parce que j'ai fait partie des gens qui étaient sur ces bancs, enfin pas ceux-là directement, mais ceux de Lully à l'époque. Donc voilà, ça me fait aussi plaisir d'être là. Je vais vous parler de la protection des sols et essayer de définir quelques bases et surtout orienter la discussion sur peut-être un peu moins technique que ce que vous avez vu ce matin, mais sortir un peu du champ de la technique pour se poser les questions sur qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut imaginer orienter les aménagements extérieurs à l'avenir. Le sol, c'est un élément fondamental de l'écosystème terrestre, tout le monde le reconnaît. C'est, historiquement, la protection des sols, elle a été créée sur les chantiers. C'est un milieu, le sol, qu'on ne voit pas, par définition, donc on commence à s'y intéresser que quand on a des problèmes. Donc en Suisse, la protection des sols est née quand des agriculteurs faisaient opposition au passage de tranchées de gaz à travers la Suisse, parce qu'ils avaient eu par le passé des problèmes. Aux États-Unis, c'est né avec les Dust Bowl, quand il y a eu des immenses érosions éoliennes qu'on a. Donc c'est au moment où on a des vrais gros problèmes sur les sols qu'on commence à s'intéresser à leur protection. Là, l'idée de cette présentation, c'est de changer un peu de paradigme, c'est de se dire, si on utilise le sol comme un outil et non comme une contrainte. Ça, c'est des images tirées du PNR 68. Le sol, il est au centre de tous ces grands compartiments de l'environnement. Il est vraiment au milieu de toutes ces problématiques publiques. C'est-à-dire que le sol, ça va être l'interface entre les eaux souterraines et les utilisations du sol, que seront l'aménagement du territoire, l'agriculture, la forêt, évidemment le climat. Et puis, quand il ne va pas bien, ben, les sites contaminés. C'est aussi une ressource. Le sol, on peut regarder si... On peut imaginer le sol parfait agricole, comme on a tous conscience, c'est-à-dire une terre agricole de l'Oberland bernois, comme ici. Ça, c'est la vision assez classique qu'on a du sol, avec des gens qui vont penser que les sols, c'est dans l'agriculture uniquement. Les sols, c'est pas du tout dans l'agriculture. C'est aussi la forêt, c'est aussi des sols très artificialisés, très anthropiques, comme dans les vignes ou dans les cités. Ils sont tous très différents, les sols, selon leur usage, mais aussi à l'intérieur de ces usages, ils sont très différents, ils sont très variés. Donc on aura autant de façons de les gérer. Le seul point qu'on pourrait dire qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont fragiles. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, un passage de machine très lourde en conditions humides, on peut fragiliser, détruire complètement quelque chose qui a mis des millénaires à se former. Si on regarde une autre façon de voir les choses, les sols, c'est aussi évidemment une source de matière première, c'est aussi des fonctions d'archives pour l'archéologie, mais on aura des fonctions qu'on va appeler en premier lieu environnementales, mais aussi économiques et sociétales, qui seront des fonctions évidemment de support, de production, de milieu de vie et de régulation. Si on imagine un sol agricole qui s'affaisse sous le poids des tracteurs ou qui se minéralise, qui s'érode, au hasard, vous regardez les sols de la plaine de l'Orbe ou du Zélande, qui sont quand même parmi les surfaces les plus productives en termes agricoles. On voit maintenant qu'on a énormément de peine à les cultiver. On est en train de porter atteinte gentiment à la fonction de support. Quand il s'érode sous l'effet des précipitations et qu'il termine sa vie comme un sédiment dans les rivières ou dans les lacs, finalement, on a des pertes définitives. Là, on porte atteinte à la fonction de support et bien sûr à la fonction de production à moyen long terme, parce qu'il produit forcément, on perd en fertilité, il produit de moins en moins bien, et bien sûr tout ce qui concerne milieu de vie et régulation. C'est des cercles vicieux qu'on a énormément de peine à contrecarrer. Une fois qu'on a de l'érosion, c'est que le mal est déjà fait. Maintenant, si vous regardez en agriculture, c'est un peu les mêmes principes. Si vous regardez la compaction, c'est une façon d'avoir des engins de plus en plus lourds, de plus en plus puissants, qui vont impliquer de plus en plus de pression sur le sol, donc des compactions de plus en plus profondes. Et ça, c'est des effets assez pervers. qu'on a aussi énormément de peine à contrer parce qu'ils ne sont pas visibles. Maintenant, un sol qui est compacté, il est fragilisé, donc il sera moins capable de répondre à ses fonctions. Si on reconstitue un sol, si on le construit complètement en ville, on peut imaginer, c'est très schématique tout ça, qu'on a un sol très profond au départ, avec ici jusqu'à 1m10, 1m20 de profondeur, des surfaces d'enracinement importantes, des capacités de rétention en eau très importantes. Régulièrement dans les espaces verts, ou les aménagements, les chantiers, on voit qu'on se retrouve à la fin avec un petit sol de 30 cm sur du remblai compact. J'ai mis des chiffres, là aussi, calculés très très à la louche, juste pour imaginer une des fonctions du sol qui sera la réserve en eau. Si on imagine un sol très profond, on va pouvoir stocker, disons, entre 3 et plus de 600 litres d'eau au mètre carré. Un petit sol de 30 cm, s'il est plus ou moins qualitatif, s'il est vraiment impacté, on va descendre autour de quelques dizaines de litres. S'il est encore de bonne qualité et relativement profond, on va friser à peine les 200 litres. Vous imaginez bien que deux sols comme ça vont avoir une résistance aux pluviométries extrêmement différente. Cette capacité de rétention en eau, juste cet aspect-là, il va dépendre en premier lieu évidemment de la profondeur, c'est le réservoir qu'on peut avoir d'eau dans le sol, et après des caractéristiques du sol. Donc je pense que vous en avez parlé ce matin, la texture, combien on a d'argile, de limon, de sable, etc. dans le mélange terreux, disons, qu'on a ici. Et puis la structure, comment ces particules-là sont agencées et comment elles vont créer des espaces où l'eau va pouvoir être retenue, libérée gentiment pour les plantes, ou drainée, ou retenue quasiment définitivement. La profondeur, c'est presque une donnée de base. On ne peut pas tellement jouer dessus dans les sols qu'on n'a pas retravaillés. Si on recrée un sol, on peut commencer à créer autre chose que juste 30 cm pour du gazon. J'ai mis le titre « Qu'est-ce qu'un sol efficace ?» entre guillemets, parce que c'est vraiment un point de vue très anthropocentriste de parler d'efficacité du sol, de fonction du sol. Beaucoup de gens parlent de services écosystémiques. C'est toujours le point de vue de qu'est-ce que le sol va me donner comme bénéfice en tant qu'humain qui habite. En ville, c'est nécessaire parce qu'en ville, c'est un milieu par définition très anthropocentré. On va commencer à se poser ce genre de questions quand on va parler de création d'espaces verts. Quand ça ne fonctionne pas, quand on a des petits sols peu épais, pas bien, avec des mauvaises structures, on va avoir des sensibilités à la sécheresse très importantes, des inondations à l'aval. Si vous imaginez les capacités de rétention en eau, si on parlait de 40 à 150 litres d'eau au mètre carré, ça veut dire que votre sol sera plein très très rapidement. Une fois qu'il est plein, il ne peut plus infiltrer, sauf s'il y a un immense système de drainage en dessous, comme dans les terrains complètement artificialisés, terrains de sport, etc. Donc un sol qui est plein, il va avoir l'eau qui ruisselle à sa surface. L'eau qui ruisselle à sa surface, ça veut dire qu'elle aura eu le temps de dissoudre tout ce qu'il a dedans dans le sol, que ce soit des molécules organiques, que ce soit des engrais, pesticides, etc., qu'on lui aura mis. Toutes ces substances polluantes vont se retrouver dans les eaux. Donc on va avoir, pour des espaces verts, des excès d'eau quand on en a, dans les périodes où on a trop d'eau, et puis des manques d'eau, les périodes où il n'y a pas assez de précipitations. Il y aura des problèmes phytosanitaires, évidemment, dès qu'on a des excès d'eau, on va devoir avoir besoin de plus traiter, on va avoir besoin de beaucoup plus entretenir si on veut maintenir le milieu, un milieu artificiel type gazon, espace vert. On va devoir être beaucoup plus attentif à ce qu'on met sur ce sol. Il va être beaucoup plus, comment dire, artificialisé, on va devoir s'en occuper très très fort. Donc tout ça aura un coût, on va devoir remplacer des plantes, on va devoir entretenir beaucoup plus fréquemment. Évidemment, à terme, c'est aussi des problèmes de pollution des eaux. Si on regarde les fonctions du sol, si on veut résumer l'efficacité d'un sol, donc, il faudrait imaginer qu'on a toutes ces fonctions. Ça, c'était des schémas qui ont été faits par l'ONU, par la FAO, disons, pendant l'année internationale des sols. On pourrait toutes les détailler. Il y a bien sûr la fonction de production alimentaire, c'est une des premières qu'on voit. C'est une question purement de quantité et de qualité qu'on arrive à produire sur une surface donnée. Le sol, c'est aussi le grand milieu où va se dérouler tous les cycles des grands éléments. Alors on pense à l'eau, bien sûr, à l'air, mais c'est aussi le carbone. Ici à Genève, dans le canton de Vaud aussi, on vient d'introduire ces questions-là dans les plans climat. C'est aussi des questions de protection et d'épuration des eaux. Le sol, c'est vraiment une éponge, entre guillemets, un filtre, qui va permettre à l'eau, une fois qu'elle passe à travers très gentiment, très doucement, de ressortir théoriquement propre s'il fonctionne. C'est une question aussi, on l'oublie souvent, c'est une question de régulation des eaux. Un sol qui fonctionne et qui va relarguer très doucement des quantités d'eau dans les eaux souterraines, Ça va être très utile justement pour les eaux souterraines. Un sol qui ne fonctionne pas, où les eaux vont très vite être drainées, ou ruisseler en surface, ou ne pas du tout être retenues dans le sol, ça va modifier les flux hydriques. Donc en termes de gestion urbaine, c'est une fonction qui est extrêmement importante. Je vous cite le nouveau plan d'action climat de la Confédération 2020-2025. Ils ont énormément parlé du sol aussi, et aussi énormément parlé du sol en ville. C'est plus qu'une question de pédologue convaincu, c'est une question qui dépasse des enjeux, qui a des enjeux beaucoup plus larges que ce qu'on connaît. Le sol, ce n'est pas juste un simple mélange, ce n'est pas un substrat théoriquement, ce n'est pas juste un mélange d'argile, de matière organique, d'un peu de limon qui est brassé et qui en fait un substrat. Ça, c'est de l'horticulture, ça, c'est des substrats horticoles. Un sol qui fonctionne, pour réunir toutes ces fonctions-là, il est forcément, il y a la vie à l'intérieur. Il y a forcément des milliards, des cortèges de bactéries, de vers de terre qui le créent. Et c'est ça qui crée toutes ces fonctions. En gros, pour essayer de viser des fonctions vertueuses des sols dans la ville, y compris pour l'eau, on peut se poser la question de est-ce qu'on va essayer de protéger ce qui existe en priorité ? Est-ce que quand on crée des espaces verts, c'est vraiment nécessaire de tout enlever les sols, les stocker ailleurs et ensuite de tout les reconstituer ? Je ne parle même pas de la question d'un arbre qui aura 200 ans, qu'on va remplacer par un arbre qui en aura 3. La fonction même du sol va être forcément péjorée. Si on travaille bien sur un chantier, si on le décape un sol correctement, qu'on l'entrepose correctement, pas trop haut, qu'il y a toujours de l'air qui circule, des racines qui y poussent, on pense qu'on détruit environ 50 à 70% de ses fonctions, juste en le manipulant correctement. Donc vous imaginez, quand on terrasse en ce moment et qu'on brasse la terre en ce moment, là c'est du 90-99% des fonctions qui sont détruites. Ces sols-là, on doit les réutiliser après. Ensuite, une fois qu'on aura reconstitué des sols dans des espaces verts, on va essayer de donner au sol la possibilité de se régénérer. En général, comme on fait les choses, c'est qu'on repose les sols, on sème, on s'en va. Il y a une réception des travaux, c'est fini. Le sol, il mettra, si on l'a bien travaillé, je prends l'exemple d'une gravière, on va parler de 5 ans de contraintes de remise en culture pour qu'il se remette. Réellement, ce sera 10 ans avant de retrouver une production agricole d'assez bonne qualité. On a déjà des bons résultats en 3, mais il y a un temps de latence. Dans les espaces verts, on ne l'a jamais, ce temps de latence. Si on prend un exemple agricole, alors je ne vais pas vous faire l'apologie ici de l'agriculture de conservation, je pense que vous connaissez cette image. J'aime bien l'exemple de l'agriculture parce qu'il y a des travaux depuis d'assez nombreuses années sur comment on gère un sol pour qu'il soit efficace. Ici, vous avez deux champs qui sont distants. Si vous regardez, il y a juste ces deux champs voisins. Vous avez un sol d'un côté... Vous avez un sol d'un côté qui est gorgé d'eau, mais qui finalement a une teneur en eau beaucoup plus faible, à gauche. À droite, il a plus d'eau, il est plus portant, il a une meilleure infiltration de l'eau. Il va évidemment tamponner et réguler les eaux qui vont pénétrer dans les drains et après dans les eaux, dans les réseaux d'eau. Il va avoir évidemment une meilleure production, ça c'est à intrants égaux. Il va avoir moins besoin d'intrants, il va être plus résistant. Il va avoir moins besoin d'engrais, d'irrigation, etc. Et puis, il va mieux résister aux aléas. Ça, c'est des techniques qui commencent à fonctionner en agriculture. Quand je disais sol efficace, ça veut dire l'efficacité, elle doit, ça c'est de mon point de vue personnel, se traduire en quatre phases. Un sol comme ça, pour être efficace, il doit être en premier lieu vivant. C'est une condition presque préalable. On devrait, si j'exagère si je pousse le trait, on devrait presque dire tout ce qui tue est mauvais pour le sol. Je pense à tout ce qui s'appellera de la désinfection, tout ce qui s'appellera un motoculteur. Je ne comprends pas qu'on utilise encore des motoculteurs. C'est une machine qui broie le sol. On détruit la structure, on en fait des substrats. Alors ça marche très bien à court terme, mais à long terme c'est un peu plus délicat. Un sol comme ça, dans un contexte agricole, il doit être performant pour l'agriculteur qui le cultive. Pas qu'il l'exploite, mais qu'il le cultive. Un agriculteur, le rôle va être, quand c'est bien fait, le rôle va être de produire en assurant... en garantissant son potentiel de production, en prenant soin de sa machine, en quelque sorte. L'idée, ce n'est pas de faire des petites fleurs, l'idée, c'est de l'utiliser correctement pour pouvoir leur donner au suivant, avec une capacité de production, une fertilité qui ne soit pas touchée, voire même parfois meilleure. Un sol comme ça, il doit être performant pour la société. Il ne doit pas être performant en tant que tel sur la surface où il est. Donc ça, c'est les fonctions qu'on a dit avant. Il doit épurer l'eau, il doit nourrir la population, il doit être utile aussi pour le paysage, pour les milieux naturels. Et il doit être finalement performant pour le cadre de vie. Et idem, on parle de filtration, d'épuration des eaux. En agriculture, ça met pas mal de temps à se lancer, mais il y a des gros efforts qui sont faits. Si vous regardez dans les campagnes, quand on a ces magnifiques couverts végétaux, des sols qui sont toujours couverts, qui sont plus nus pendant des mois, on voit qu'il y a quand même une grosse évolution qui est en train de se faire de ce côté-là. Donc imaginez un jour qu'on puisse recréer, voire entretenir des espaces verts de cette façon. Ça, c'est de nouveau des exemples extrêmes. L'idée, c'est pas de dire que Genève est mieux que la Chaux-de-Fonds. L'idée, c'est de dire, si on regarde deux modèles et puis qu'on se pose les questions, qu'est-ce qui valent ces modèles-là en termes de durabilité pour les humains qu'ils abritent? Quel est leur bénéfice de ces deux modèles pour la société? Quelle est la résilience de ce genre de système? Est-ce que, avec le modèle du parc urbain, qu'est-ce qu'on peut en faire après? Presque tout. On n'a aucune limite avec un parc comme ça. Un modèle avec quelques arbres plantés dans des fosses, des substrats, du bitume autour, le jour où on veut revenir en arrière, le jour où on revient à l'époque du plan Wallen et qu'on doit recultiver, c'est pas là-dessus qu'on va aller faire quelque chose. C'est une notion de résilience qui est extrêmement importante et qui peut être intégrée, à mon avis, dans les décisions dans les espaces verts. Les questions de température, évidemment, c'est pas les arbres qui baissent la température, pas que les arbres qui baissent la température, c'est aussi le sol qui régule l'air dans la ville. Donc c'est caricatural tout ça. On peut aussi chercher, pour rigoler, de voir j'étais un peu surpris de voir des aménagements qui se font de plus en plus sans sol. Il y a, alors ça c'est des exemples aussi très très extrêmes, je pense c'est en France, quand on tape jardin sans entretien, on tombe sur ce genre de choses. Là aussi, la question de la résilience d'un système comme ça. Qu'est-ce qui se passe le jour où on veut on habite cet endroit-là, et un jour on a peut-être envie de faire un jardin, un jour on a peut-être envie de planter un arbre parce qu'on a trop chaud. Ici, ça va être très difficile, on va créer énormément de déchets. Et bien sûr, ça va être très cher. Si on regarde, la question qu'on peut se poser, c'est quelle fonction du sol on aimerait pour quel espace vert? L'idée n'est pas de dire, il y a eu un sol à recréer partout pour les espaces verts. L'idée, c'est de se dire, on peut recréer des sols différents en fonction de ce qu'on a envie. Si on veut créer une fonction uniquement de support, c'est les forces de plantation. Je pense que vous en avez parlé ce matin. Il y a des techniques qui existent, on sait à peu près le faire. Si on veut qu'en plus ce sol, il est pur, l'eau, qu'il soit filtrant, on va travailler un peu différemment. On peut vouloir un sol qui régule les eaux et on peut avoir un sol qui a encore d'autres fonctions. On peut avoir un sol qui est quasiment illimité, qui va aussi nous servir à produire de l'alimentation, aussi faire des jardins, du paysage, etc. L'idée, c'est que si on veut ces questions-là, de quel sol, quelle fonction du sol on veut, dans quel aménagement, véritablement, à mon sens, une question de politique publique. C'est une question qui doit se poser à l'échelle des décideurs, à l'échelle des communes, des urbanistes. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la ville? Où est-ce qu'on a des problèmes, par exemple, de régulation des eaux? Est-ce qu'on peut imaginer protéger des sols qui nous servent à réguler ces eaux? Est-ce qu'on peut imaginer les recréer là où c'est utile? C'est une question chez les particuliers. Qu'est-ce qu'on veut faire du sol? Quel est l'usage qu'on va vouloir faire de ce sol-là? C'est sûr que pour faire une salade, on n'a pas besoin d'un sol d'un mètre de profondeur. Mais si un jour je veux planter autre chose, le mètre, il me sera très utile. C'est une question des professionnels, des paysagistes, etc. L'idée, ce n'est pas de dire on va faire des leçons d'architecture du paysage. L'idée, c'est de dire si l'architecture du paysage s'oriente vers des sols, des espaces verts avec des fonctions très très larges, là, ils auront sans doute besoin de l'aide des agronomes, des pédologues, des gens qui connaissent un peu ça. Donc faire un bon substrat, je pense que vous l'avez vu ce matin, c'est pas forcément si évident. On va avoir une certaine qualité qu'on va pouvoir utiliser ou non. Si on veut faire de l'épuration, on aura déjà besoin d'un peu plus de profondeur, on aura besoin déjà d'un peu de vie. Si on veut faire un régulateur, il faut encore augmenter la profondeur pour que l'eau circule de plus en plus lentement dans le sol. Et si on veut aller encore plus loin, il faut changer le paradigme. Il faut arrêter de raisonner substrat, il faut raisonner système. Pour moi, le système, c'est le système sol-eau, en premier lieu, techniquement, et ensuite, c'est le système sol-eau-plante. Quelle plante sur quel sol, et comment on gère les eaux? Si on arrive à faire ça, bien sûr, on va se poser la question après de comment on entretient ce système-là. Donc là, on rajoute l'humain, on rajoute comment on entretient les espaces verts, etc. On va se poser des questions très techniques de qu'est-ce qu'on aura besoin comme matière organique, comme cycle, etc. Un sol profond, ça ne veut pas dire empiler des matériaux terreux. Ça ne veut pas dire empiler des sables, des limons, faire des couches. Un sol profond, ça veut dire obtenir des sols qui ont déjà des qualités quand ils arrivent sur un chantier. Soit ils étaient là, on les stocke correctement et on arrive à les recréer plus ou moins profonds tels qu'ils étaient avant. L'idée du sol, c'est le problème, quand je disais on perd 50-70% de la profondeur quand on le manipule, l'idée c'est qu'on va devoir le restructurer. Et puis pour restructurer un sol, il y a en gros deux façons de faire, c'est des racines et puis des cycles d'eau et de sécheresse qui vont restructurer ce sol, lui recréer une architecture pour qu'il soit fonctionnel. Donc très concrètement, si on se pose la question pour un espace vert, pourquoi est-ce qu'un jour on ne recréerait pas des sols extrêmement profonds dans les espaces verts ? Quand je disais, est-ce qu'on recréerait, pourquoi pas créer des sols de 50, 70, 100, 120 cm de profondeur ? Ces chiffres-là, ils existent, c'est des très vieux chiffres, c'est des barèmes qui permettent de dire quel est le potentiel de fertilité d'un sol. Simplement pour l'aspect profondeur, il y a tout le reste qui compte, hein, quels matériaux on a, quelle matière organique, etc., comment on l'entretient. Mais juste avec l'aspect de la profondeur, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie ? Si on a trop de matériaux, c'est souvent le cas dans les espaces verts, parce que du moment où on construit un bâtiment, on va avoir une emprise sur les sols, on aura de toute façon trop de matériaux. Donc il y a une question à se poser aussi du cycle. Est-ce qu'on pourrait avoir un cycle vertueux des matériaux, c'est-à-dire réutiliser le maximum possible des terres qui sont décapées ? C'est toujours très compliqué, c'est toujours très dur avec les architectes, on n'a pas la place, c'est techniquement difficile, etc. Parce qu'on ne se pose pas la question en amont. Donc ça devient une charge d'avoir des milliers de mètres cubes de terre. Ce qui va compter là-dedans, c'est de toute façon pas de dire, mon message ne sera pas de dire il faut des sols épais partout. Le message sera de dire il faut des sols qui sont diversifiés, des milieux qui sont diversifiés. Si on veut faire de la nature, des milieux très pauvres, on va chercher des sols très peu épais, très maigres. Si on veut faire quelque chose qui peut tout faire et qui est utile pour les fonctions d'eau, on va chercher des sols plutôt épais. Donc plutôt que des conclusions et des préceptes sortis du bureau, je voulais essayer plutôt d'ouvrir le débat. Les premières questions à se poser quand on conçoit certains plans d'affectation, c'est est-ce qu'on veut essayer de protéger au maximum l'existant ou est-ce qu'on veut essayer de tout reconstruire ? À la base, ça commence par là. Est-ce qu'on peut viser une certaine résistance des espaces verts avec les sols ? Les sols, ce n'est plus une contrainte, ça deviendrait un moyen de parvenir à des aménagements extérieurs qui ont d'autres fonctions que juste la fonction de support et d'agrément. Est-ce qu'on peut viser des cycles fermés ? Où est-ce qu'on veut des intrants artificialisés et potentiellement risquer de polluer plus loin ? Est-ce qu'on peut favoriser la biodiversité du sol ou continuer à ne prendre en compte que la biodiversité aérienne avec les plantes qu'on y fait pousser ? Là aussi, il ne faut pas opposer les domaines, mais on oublie souvent la biodiversité du sol quand on parle de biodiversité. On parle de biodiversité qu'on voit. Les milliards d'organismes du sol, on les prend rarement en compte. Est-ce qu'on peut orienter les espaces verts donc pour d'autres fonctions que juste faire pousser un arbre ou faire pousser un gazon ? La fonction typiquement de régulation de l'eau. Là, on peut décider. Il y a des études qui ont été menées comme ça, d'avoir des sols ou dans des toitures végétalisées, par exemple, qui ne relarguent presque pas d'eau dans les réseaux. Dans certains endroits dans la ville, ça peut être extrêmement utile d'avoir des sols profonds avec le système plante dessus qui ne fait que de l'évapotranspiration, quasiment. On peut essayer de chercher ça dans certains cas. Est-ce qu'on veut de la qualité des eaux ? Est-ce qu'on veut de la régulation de la température, de l'alimentation, potentiellement avec les espaces verts, du stockage de carbone ou de la valorisation de déchets ? Ça peut être encore une solution quand on n'a pas les matériaux de réutiliser des déchets pour recréer des sols. Donc comment est-ce qu'on peut définir et valoriser tous ces co-bénéfices de recréer des sols de qualité ? Si on les prend en compte en amont, je pense qu'on peut leur donner une valeur et les mettre en avant. Toujours la même question de l'entretien des espaces verts. Est-ce qu'on va entretenir les plantes ou est-ce qu'on va entretenir les plantes et les sols ? On va peut-être commencer à travailler un petit peu différemment. Est-ce qu'on veut protéger les sols selon leur fonction pour la société ? Donc comment les intégrer dans l'aménagement du territoire ? Comment recréer des surfaces fertiles, entre guillemets, pour essayer d'une certaine façon de compenser l'imperméabilisation ? On doit densifier, donc est-ce qu'on peut imaginer compenser toute cette imperméabilisation ? Il y a un exemple qu'on peut citer ici, c'est la région Morges qui est en train de travailler sur un indice de qualité des sols. C'est des bébés du programme de recherche 68 sur les sols, du programme national de recherche. L'idée, c'est d'essayer de créer des outils pour les décideurs, pour gérer ces surfaces de sol. En quoi est-ce qu'elles sont utiles ? Est-ce qu'il y a des surfaces qu'il faut protéger parce qu'elles permettent d'éviter les ruissellements, de lutter contre les dangers naturels, tout simplement ? Ou est-ce qu'elles permettent d'avoir des endroits d'agrément, des endroits de production, etc. D'essayer de cartographier ça pour donner des outils d'aménagement. Pour conclure, s'il faut retenir quelque chose de cette présentation, j'aurais envie conclure en disant que le sol, c'est une ressource précieuse, c'est sûr. Ça, je pense que tout le monde est au clair là-dessus, mais elle est surtout très fragile. Le sol, ce n'est pas forcément une contrainte, mais c'est un potentiel extraordinaire pour gérer les eaux, pour essayer d'assurer leur qualité, pour gérer leur quantité, les flux, mais aussi pour plein d'autres choses. Il n'y a que des bénéfices si on imagine un jour les gérer, les reconstruire correctement. Mais ça implique toute la chaîne, ça implique la chaîne depuis les décideurs, les urbanistes, l'aménagement du territoire, jusqu'aux gens très concrets, les jardiniers qui entretiennent les espaces verts. Ça implique entre deux les professionnels du génie civil, les paysagistes, qui doivent gérer ces sols, les architectes du paysage qui doivent concevoir des espaces verts, et bien sûr tous les métiers techniques que vous pouvez avoir autour, comme les gens des sols, etc. Voilà, je vous remercie. J'ai réussi presque à...
Merci beaucoup François pour cet exposé extrêmement complet. Je m'excuse, on ne va pas avoir le temps tout de suite là, de prendre des questions. J'ai peur qu'il y en ait beaucoup, beaucoup trop pour qu'on puisse respecter le temps. Non, on va surtout se donner en fonction du temps qui nous restera à la fin pour poser des questions sur les deux, trois présentations qui s'enchaînent. Juste une remarque à chaud sur l'exposé de François. On sait, on comprend qu'on arrive à reconstituer les sols de qualité variable et surtout en fonction des lieux et des contextes. Il y a une chose par contre qu'on n'arrivera jamais à recréer, c'est des sols profonds dans toute leur épaisseur et en particulier dans les villes. Et il faut vraiment militer pour le respect des quelques rares sols profonds qui restent en ville, d'où certains combats encore à mener. Pour préserver cette pleine terre dans nos vies. Voilà. Merci encore François. Et là, j'ai le plaisir de passer la parole à Claire Adjé, qui nous vient de Montpellier, du sud de la France, et qui est un peu Madame Racine.
Oui. C'est ça. Voilà. Miss Roots pour les intimes.
Ah voilà. Très bien. Claire, à toi la parole. Merci beaucoup pour
Merci ta présence. Merci bien. Je suis ravie d'être en Suisse. C'est une première pour moi, pas pour le tourisme, parce que quand même la Suisse on connaît, mais en tout cas à titre professionnel, et d'être dans une réunion de Plantes et Cités, petite sœur de Plantes et Cités angevine. Et la première grosse réunion qui a eu lieu à Angers à la naissance de Plantes et Cités France. La toute première réunion, elle portait sur les sols reconstitués et sur la colonisation des sols par les systèmes racinaires. C'était il y a un certain nombre d'années, ça me donne un petit coup de jeunesse, je vous remercie. On va commencer à parler de systèmes racinaires parce que c'est ma spécialité et puis je sais parler que de ça, sinon je suis très, très mauvaise. Alors, voilà. Moi j'ai envie juste de vous parler de systèmes racinaires pour sortir... quelques idées générales et puis éviter sur toutes les parties qu'il ne faut pas croire sur les arbres et dont on entend pas mal de choses et qu'on lit pas mal de choses dans la littérature. Alors il y a un petit dessin de la hulotte, je vous laisse réfléchir, je pense que tout le monde peut répondre à la question qui est posée, mais de temps en temps ça fait du bien de revenir sur les fondamentaux de ce que c'est qu'un arbre. Alors, un système racinaire d'arbres, c'est un ensemble de racines qui appartiennent à trois grandes classes et qu'on peut subdiviser en cinq catégories. Dans le système racinaire d'un jeune arbre qui a mis en place la totalité des racines qu'il sait faire, vous avez des racines qui sont ligneuses, donc qui fabriquent du bois, hein, qui font de la croissance en épaisseur, qui sont permanentes dans le système racinaire et qui sont de deux types. Le pivot, il est en position centrale, c'est, si tout se passe bien, la radicule, c'est-à-dire la première racine qui sort de la graine à la germination et qui va donner naissance donc à un organe qui va servir à la plante à se fixer au sol. C'est la première urgence que va subir la plante, se fixer au sol pour pouvoir commencer à exploiter le sol. Et de cet élément central qui détermine le statut d'organisme fixé chez un végétal, vont partir des racines charpentières qui, elles, vont explorer les horizons intéressants du sol, on y reviendra. Et les horizons intéressants du sol, ils sont généralement en surface. Donc on a 5 à 10 racines charpentières chez un arbre, ce sont des valeurs très à la louche, hein, bien sûr, à adapter selon les essences et les stades de développement. Donc, 5 à 10 racines charpentières qui vont, à partir du point de fixation que représente le pivot, aller explorer les horizons superficiels du sol. Et puis, ces racines charpentières, elles développent une deuxième catégorie de racines, qui sont des racines qui sont ligneuses, mais qui ont une durée de vie limitée. On a une grosse problématique pour évaluer la durée de vie des éléments souterrains, c'est qu'on n'a pas de marqueur de la croissance comme on en a dans la partie aérienne. Alors la notion de cerne de croissance, vous pouvez l'éliminer dans les racines, surtout quand vous partez en périphérie du système racinaire. Et puis comme vous n'avez pas de formation de bourgeons dans des racines, vous n'avez pas non plus la possibilité de lire ce qu'on appelle les pousses annuelles dans la partie racinaire. Donc on peut simplement se fier sur certains paramètres qui sont la croissance en épaisseur et la longueur pour évaluer des durées de vie relatives des racines. Et la deuxième catégorie de racines, donc qui sont des racines ligneuses, vont être de deux types. Les premières, à partir de la charpente, elles vont aller coloniser l'environnement latéral par rapport à la charpente et elles vont développer, elles, latéralement par ramification, des racines qui vont être de diamètre nettement inférieur, qui vont être des racines. Moi, quand je suis enseignante, avec des élèves de tout niveau, mais parfois des élèves de niveau assez bas, donc il faut leur donner des images. Les racines de colonisation, ce sont des choses qui sont rigides, qui font plusieurs centimètres de diamètre. Par contre, les racines d'exploitation, ce sont des racines qui vont être souples, qui sont ligneuses, mais qui vont être souples. Et c'est typiquement les racines qui vous créent ce qu'on appelle le chignon au fond du pot, ou le chignon à l'intérieur d'un conteneur. Ce sont des racines qui vont être capables de se déformer contre les obstacles. Et puis la dernière catégorie, eh bien, c'est ce qu'on appelle le chevelu, dans le sens large de la littérature. Et alors qu'on a une racine pivotante et 5 à 10 racines charpentières, eh bien, on a un effectif de racines qui augmente d'autant plus qu'on s'adresse à des catégories périphériques et des chevelus qui sont spécialisés dans l'absorption et toutes les fonctions d'échange avec les micro-organismes du sol. Donc c'est le chevelu qui fait la mycorhization. Eh bien, des chevelus, on en a des milliers, non, on en a en fait des millions. Ce n'est pas la biomasse la plus importante, mais en termes d'effectifs et d'interface avec le sol, c'est certainement la partie racinaire la plus importante au terme fonctionnel de la chose. Alors, chaque espèce va vous décliner ce plan de base, si j'ose dire, c'est que chaque espèce arborescente va décliner ce plan de base à sa manière. Je vous ai illustré ici différentes formes d'enracinement, allant de zones bien sèches d'où je viens, vous avez entendu avec mon petit accent, que je ne sais pas de cacher, donc de la garrigue de la région Montpellier-Rennes au bord de la Méditerranée, en allant en forêt tropicale humide, puisque c'est mon origine, puisque j'ai fait mes premières armes sur les racines en Guyane française. Donc vous avez différentes formes d'enracinement, et en fait, quand on s'y connaît un petit peu en système racinaire, ben vous reconnaissez un arbre par sa forme, par l'aspect de sa forme aérienne, celle que vous voyez, mais vous pouvez reconnaître un arbre par l'aspect de sa forme racinaire aussi, si vous vous y connaissez. Et s'il y a des pépiniéristes dans la salle, ils savent qu'ils reconnaissent leurs arbres par les parties racinaires. Alors, l'installation de ces différentes catégories, c'est quelque chose qui est extrêmement progressif, et la plante ne met pas en place dès le début les plus grosses catégories racinaires qu'elle va être apte à développer au cours de sa croissance. Et en fait, il y a toute une succession d'étapes. La première étape pour une plante, c'est de se fixer au sol et d'absorber, d'être capable de s'affranchir des réserves de la graine pour pouvoir en fait mettre en place sa propre photosynthèse. Et qui dit photosynthèse, il dit absorption d'eau et d'éléments minéraux dans le sol. Donc la première étape, c'est en fait l'installation de l'ancrage et l'installation du chevelu absorbant. Quand la plante est arrivée à un niveau d'installation de surface absorbante suffisante, à un niveau d'équilibre avec sa partie aérienne, à ce moment-là, elle va oser, si j'ose dire, mettre en place des racines d'exploitation. Ça va lui permettre de multiplier sa surface absorbante. Et puis quand elle aura atteint certaines quantités de racines d'exploitation, elle pourra mettre en place des racines de colonisation, et ce n'est qu'au terme de son développement de jeune arbre qu'elle mettra en place ses véritables racines charpentières. Donc c'est extrêmement progressif et les arbres sont beaucoup plus facilement manipulables dans ces étapes-là que dans celles-là. Parce que là, dès que vous commencez à manipuler un arbre, vous tapez dans son système charpentier pérenne. Ça explique pourquoi l'arbre n'aime pas avoir 150 transplantations. Je suis du Midi, j'exagère et j'assume complètement. Mais 3, c'est déjà beaucoup et 4, c'est trop. Voilà. Alors, une fois que l'arbre a installé cette forme-là, qui correspond à la forme d'un jeune arbre, hein, d'un arbre qui a une dizaine d'années, à ce moment-là, ben, certaines espèces vont aller au-delà par un processus qu'on qualifie, quand on fait de l'architecture végétale, de réitération. Mais il y a des mots très simples pour dire la même chose. Hein. Par des processus d'installation de fourches, en fait, la plante va pouvoir répéter plusieurs fois son architecture. Alors ça, on le connaît bien dans la partie aérienne, c'est ça qui induit l'installation des branches maîtresses dans la partie aérienne. Le système racinaire, en même temps, c'est assez rassurant, hein, un organisme, c'est un organisme, il est entier. Il y a le même codage génétique en haut et en bas, donc le système racinaire est capable de faire la même chose. Et vous avez des illustrations ici sur différentes espèces, des capacités des systèmes racinaires à mettre en place des fourches. Alors des fourches sur les racines charpentières, ici, et puis dans certains cas, des fourches qui vont donner naissance, dans beaucoup de cas, en fait, à la capacité de la plante à multiplier ses racines charpentières horizontales, mais à renforcer aussi son ancrage et sa colonisation verticale du sol par l'installation de pivots surnuméraires supplémentaires qui vont augmenter en fait l'ancrage de la plante au sol et sa capacité à coloniser les horizons profonds. Alors vous avez ici différentes illustrations. Ici on est sur de l'érable sur les bords de la Seine en région parisienne. Ici on est au Congo sur des boutures qui ont 2 ans d'eucalyptus, mais les eucalyptus c'est des bombes. Et puis on est ici chez des frênes. Cet arbre-là a beaucoup été utilisé, dessiné et repris sur des couvertures de bouquins. On a différentes manières de faire des pivots supplémentaires. Et le frêne, lui, en fait, il fait des racines plongeantes qui dérivent les unes des autres successivement. C'est une manière de le construire, et ça, on le connaît en architecture végétale, au niveau des branches, et on a la même chose au niveau racinaire. Et puis, il y a une autre manière de renforcer son système racinaire, c'est de faire ce qu'on appelle de la réitération retardée, quand on veut parler très chic, et moi j'aime bien plutôt utiliser des mots français, et la réitération retardée, c'est du rejet. C'est ce qu'on appelle dans le vocabulaire courant du rejet. C'est-à-dire la capacité de la plante à installer de nouvelles tiges ou de nouvelles racines sur des portions qui sont déjà assez anciennes. Et le système racinaire, il s'est rejeté. Alors il s'est rejeté, il a certaines difficultés, il n'a pas de bourgeons comme dans la partie aérienne, mais en attendant, il s'est rejeté. C'est ça qu'on utilise quand on fait de la transplantation. On utilise les compétences du système racinaire pour rejeter après les tailles violentes qu'on lui fait. Ici, vous êtes sur différentes espèces. Donc ici, vous êtes sur du noyer dans des parcelles agroforestières dans la région de Montpellier. Et puis ici, vous êtes sur du platane. Et le platane, c'est le champion du rejet en termes racinaires. Et je pense que tout gestionnaire de ville qui a des platanes dans sa ville sait que c'est le champion du rejet. Donc ça, c'est un processus parfaitement naturel lié en fait à une remontée d'un sol en bord de cours d'eau et puis au cours de crue du dégagement du sol en question qui laisse apparaître les rejets qui peuvent naître sur la partie basale du tronc et qui donnent naissance à de nouvelles racines charpentières. Alors une petite illustration de ça. À travers les platanes qu'on a dans la région méditerranéenne en bord de cours d'eau, zone de colonisation naturelle chez nous du platane, la ripisylve, eh bien le platane, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Vous avez une projection, hein, c'est une illustration, c'est mon graphisme à moi, il vaut ce qu'il vaut. Vous avez une illustration de, en fait, une vue d'avion du système racinaire avec représentées uniquement les racines charpentières. Alors dans un premier temps, mon petit platane, il fait ses racines charpentières, et puis il est capable de mettre en place des fourches sur ses racines charpentières. Puis à partir d'un certain stade, il va être capable de mettre en place des rejets à partir de la base du tronc, comme on l'a vu précédemment, et puis à partir des points de fourchaison. Et ces rejets vont reconstituer de nouvelles racines charpentières, et en fait, vous avez des empilements de couronnes successives de racines charpentières qui, à terme, sont capables de se souder chez le platane et qui donnent naissance à ces formes racinaires qui sont typiques qu'on trouve au bord des cours d'eau en région méditerranéenne. Et en fait, c'est de la soudure entre racines du même individu, mais c'est aussi de la soudure entre racines d'individus voisins. Et c'est ça qui induit les risques pathologiques qu'on connaît. J'espère que vous avez entendu parler du canal du Midi, Sinon, je vous engage à venir dans le Midi, voir ce que c'est que le canal du Midi, qui était bordé de platanes et qui actuellement est mis à nu à cause du chancre coloré, qui est une maladie qui se transmet par le système racinaire d'arbre en arbre au bord du canal du Midi. J'espère que vous n'êtes pas touchés de votre côté. Et puis, ben, les conséquences de ce genre de processus, c'est ce qu'on connaît tous, plus ou moins, avec les séquelles plus ou moins importantes de la manière dont on peut les gérer, hein. C'est-à-dire qu'un système racinaire de platane soulève le sol et fait remonter le sol. Et ce n'est pas la peine de lutter contre la nature de ces arbres-là. De toute façon, ils feront toujours de nouveaux systèmes racinaires, toujours plus en surface. Alors effectivement, plus on les met dans des sols étanches, plus ils vont lutter contre ces tendances-là, en fait, de fermeture du sol. Ils vont essayer d'aller ouvrir le sol même à travers des poussées racinaires. Qu'est-ce qu'on sait, en fait, de l'extension du système racinaire? Il y a beaucoup de choses qui se baladent dans la littérature. Et là, moi, j'ai envie d'un peu remettre les idées à leur place. Est-ce que l'aérien est le miroir du souterrain? Ben non, pas du tout, hein. Qu'est-ce qu'on connaît des idées maximales d'extension en profondeur et d'extension latérale des systèmes racinaires? Ben, le Guinness Record, il est détenu par un figuier étrangleur. J'ai pas le temps de développer ce que c'est, tant pis, dommage, une autre fois peut-être, si vous voulez bien. Alors, l'extension maximale en termes de rayon, c'est un figuier étrangleur sur lequel j'ai travaillé en Guyane française. Avec 90 mètres de rayon racinaire, donc ça vous fait un petit 180 mètres de rayon de diamètre, si je ne me trompe pas, et avec une extension en profondeur qui est capable d'aller jusqu'à 30 mètres. On est loin de la projection de la couronne au sol, hein, d'accord. Et puis ici, il y a un exemple qui est donné régulièrement par Francis, ça ce sont des résultats de ma thèse. Un exemple qui est régulièrement donné par Francis Allais, vous avez ici deux plantes qui font 62 mètres de longueur, seulement chez Dipterocarpus alatus, vous avez 60 mètres de partie aérienne et 2 mètres de profondeur racinaire, alors que chez Ziziphus jubea, qui est un arbre de zone désertique méditerranéenne, vous avez 2 mètres de partie aérienne et 60 mètres de profondeur racinaire. Après, qu'est-ce que c'est la véritable extension d'un système racinaire? C'est surtout pas mes petits dessins bien proportionnés, ça c'est pour faire joli, parce que je suis pas bonne dessinatrice, donc je fais comme je peux. Mais la véritable extension d'un système racinaire, c'est par exemple les données qui ont été fournies par des publications des années 50. C'est pas récent quand même, hein. C'est mon siècle à moi, pour les plus jeunes. Et la véritable extension d'un système racinaire, elle est dictée par les qualités du sol. Et donc, la racine va poursuivre son développement au fur et à mesure qu'elle trouve des qualités de sol satisfaisantes. Et si le sol, il est très hétérogène, comme ici, où vous avez manifestement une extension du système racinaire, là, qui est très limitée, ben, la plante, on va le voir, elle compense son extension en développant des racines à l'endroit où elle va trouver les ressources qui sont favorables. Donc non, le système racinaire n'est surtout pas proportionnel à la projection du houppier au sol, d'accord? Et puis en plus, les racines, elles n'ont aucune raison de faire des trajectoires rectilignes. Alors vous regardez un peu ce qu'on a... Où es-tu, mon marqueur? Je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave, il veut plus. Peut-être qu'il a plus de piles. Si, hop, il revient, le voilà. Donc, quand vous regardez les trajectoires des racines ici ou de racines là, ou un certain nombre de racines, ou par exemple ici, ben elles sortent dessous la projection de la couronne au sol, et puis elles y retournent. Et puis elles sont capables de faire des trajets qui sont absolument pas rectilignes. Alors, pensez qu'en sol urbain, du coup, la trajectoire de la racine, elle va être complètement dictée par les qualités du sol qui va être trouvé. Et quand on est concessionnaire de réseau dans les villes, on sait qu'un des endroits où les racines vont chercher la porosité, donc, qu'il a été évoqué tout à l'heure, la percolation de l'eau, ça peut être les tranchées de réseau. Alors parfois, on fabrique des autoroutes à réseau à travers des autoroutes à racines à travers les réseaux. Alors, quel est l'effet du milieu sur le système racinaire? Là, vous avez deux systèmes racinaires qui sont de la même espèce, plantés dans les mêmes conditions, c'est une parcelle forestière, mais au niveau d'altimétrie différente dans la parcelle. Et vous avez des conséquences qui sont drastiques, en fait, des qualités du sol sur la profondeur de l'enracinement. Alors, On sait, le sol, j'ai aimé la présentation, je dirais il n'y a pas de sol sans plante. Hein. La création du sol, c'est la plante. Alors on ne va pas faire toute l'évolution depuis la sortie des bactéries chlorophylliennes des océans jusqu'à la fabrication de nos forêts, mais le sol, oui, c'est un organisme vivant et une des parts importantes de la fabrication du sol, c'est bien sûr la présence de végétaux à l'intérieur du sol. Le sol est la partie érodée de la roche-mère et cette érosion, elle est liée en particulier à la présence des végétaux. Alors un sol, ben, traditionnellement, il est quand même beaucoup plus riche en matière organique sur les horizons superficiels que sur les horizons plus profonds, les plus proches de la roche-mère. Et en fait, quand on regarde la répartition des différentes catégories de racines, on peut évaluer ça aux catégories de racines, on constate que l'essentiel de la biomasse racinaire est stocké dans les 50 premiers centimètres du sol, avec une très très grosse proportion dans les 20, 30, 40 premiers centimètres du sol. On va pouvoir retravailler ça. Hein. On pourrait retravailler ça, et le système de Stockholm permet de mettre les racines plus profondes que ce qu'on souhaiterait. Mais traditionnellement, si j'ose dire, dans un sol naturel, le système racinaire, il a évolué pour s'adapter à la structuration du sol, et l'essentiel de l'enracinement est fabriqué en surface. Après, quand on regarde la réalité, et là je vais insister sur un certain nombre de choses, on est ici sur des analyses qui ont été faites suite à la tempête de 99 dans les parcs à Strasbourg, ville qui a été énormément touchée par la tempête et où il y a eu un gros accident, des morts, etc., etc. Donc on a eu en fait une étude à conduire pour voir quels étaient les risques de déracinement des arbres. Et dans le cadre de cette étude, on a travaillé en fait avec des camarades pédologues de l'École nationale du génie rural et des forêts, nouvellement nommé AgroParisTech depuis un certain nombre d'années, basé à Nancy, et on a travaillé en parallèle sur les caractéristiques sol et sur les caractéristiques de l'enracinement. Et je vous montre quelques situations. On est ici donc dans une zone où les contraintes, donc vous avez un sol, les caractéristiques texturales du sol sont décrites ici, hein. On est sur un sol limoneux, puis on passe sur un sol sableux. Le pourcentage d'éléments grossiers est très faible en surface et devient très important plus vous rentrez en profondeur dans le sol. La taille des éléments grossiers est donnée donc par le codage. J'ai des éléments grossiers de toute petite taille et puis je passe à des éléments grossiers un peu plus importants. Et puis on donne aussi la compacité qui est faible et puis qui peut devenir très importante en profondeur. Et on compare l'enracinement de deux espèces. Deux arbres voisins, donc un érable et sycomore et un frêne. Alors, l'érable, donc on est dans les sols alluvionnaires déposés par le Rhin. L'érable, lui, ben, il colonise activement avec son système racinaire charpentier la couche superficielle qui est riche en matière organique. Mais dès qu'il commence à toucher la zone graveleuse avec un premier niveau de compaction du matériau terreux entre les graviers, c'est un sol naturel. Les sols compacts naturels, ça existe. Et bien là, il jette un peu l'éponge, et comme vous pouvez le constater, il ne rentre pas en profondeur. Et il arrête sa colonisation. Alors, dans la couche très, très compacte, de nouveau, j'ai perdu mon marqueur, le voilà. Dans la couche très compacte et très riche en éléments grossiers, là, il essaie même pas de coloniser. Quand je compare le comportement du frêne, qui est juste à côté, exactement dans le même type de sol, bien sûr, lui aussi, il va abondamment coloniser la couche qui est très riche en matière organique, mais il traverse la deuxième couche. Et il est capable de passer dans un milieu qui est compact, avec un pourcentage d'éléments grossiers qui est de 90% du volume. Donc, il est capable de coloniser, et il est capable de coloniser avec des éléments qui sont des systèmes pivotants très importants. Et puis c'est quand il commence à toucher la couche où j'ai 70% d'éléments grossiers, mais où j'ai une matière fine entre les éléments grossiers, donc limon, argile et sable, qui est extrêmement compacte, que là, il jette l'éponge. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire qu'on va avoir des compétences particulières et qu'il va falloir savoir travailler ces compétences-là. Un petit peu plus loin, dans le même parc, on a travaillé sur un être, et ce être, il était dans une zone de sable complètement pure. Et quand vous regardez cet arbre-là, là, on avait vraiment l'impression d'être au bord de la plage. Hein. Je vous rappelle que ce sont des sols naturels, colonisés par la forêt de la Robertso. C'est pas rien non plus, hein, cette forêt-là. Eh bien, le hêtre, lui, ben, les pivots, vous voyez, il essaie même pas de les envoyer en profondeur parce qu'il a compris qu'il ne toucherait jamais l'eau. Donc, il essaie de rester en surface. En attendant ce sujet-là, c'est le seul qui soit resté debout de toute la zone au moment de la tempête. Pourquoi ? Eh bien, parce que cet arbre-là, il a étalé son système racinaire en mettant en place des racines charpentières dans toutes les directions de l'espace horizontal, et il a fabriqué, parce qu'il soude ses racines comme le platane, un véritable ver à pied. Et où je veux en venir ? Je veux en venir au fait que, par rapport à la contrainte que représente le sol, vous avez des réactions qui sont spécifiques. Par rapport à une contrainte donnée, un couple, espèce contrainte, vous avez des situations où, à partir d'une contrainte, eh bien, certains arbres vont dire « mais moi, je ne ressens absolument pas ça comme une contrainte ». C'est ce que j'appelle les espèces obstinées. Comme mon frêne, par rapport à la granulométrie du sol, à la présence d'éléments grossiers et à la présence d'un certain niveau de compacité, ça lui fait rien, il y va. À côté de ça, vous allez avoir des espèces qui vont être sensibles à la contrainte et qui, face à une contrainte, vont faire un processus de compensation. Si je ne peux pas pousser verticalement, ben je m'étalerai plus horizontalement. Okay ? Et je pense que ces représentations-là nous montrent ce qui se passe. Et puis, vous avez des situations de contrainte qui sont bloquantes pour le système racinaire. Alors, on a évoqué la présence des sels de déneigement. Je vous dirais que chez moi, on a des pH de sol qui peuvent atteindre 8,5 avec une dose de calcaire à l'intérieur du sol qui est rédhibitoire. Si vous ne faites pas le bon choix de la bonne essence au bon endroit, les sols calcaires, tout le monde n'est pas tolérant à ça. Donc, il va y avoir en fait la nécessité de travailler sur le couple contrainte sol, compétence de chaque espèce pour pouvoir en fait s'installer dans l'environnement qu'on choisit. Et ça, ça n'a pas été assez travaillé. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire des normes. On aime bien hein, mettre les arbres dans des boîtes, l'être vivant de manière générale. Je veux juste évoquer ça, Dieu sait si on n'a pas le temps d'en parler, de manière approfondie, mais les racines n'aiment pas la taille. Donc un des paramètres qu'on rajoute à nos arbres urbains, au-delà du fait qu'on leur demande de coloniser des sols qui sont très anthropisés, effectivement, on leur ajoute aussi un effet majeur qui est le fait qu'ils ont un parcours cultural extrêmement complexe. Alors il faut se donner du mal hein, pour rater aussi bien un platane. Je ne donnerai pas le nom de la pépinière. Mais on sait qu'on a des compétences en termes de capacité de régénération racinaire qui diminuent avec le diamètre des racines qu'on va tailler. Et il y a un consensus qui vaut aussi bien pour la partie aérienne que pour la partie racinaire qui est plus je taille petit, plus j'aurai de chances de régénérer quelque chose de conforme. Plus je taille gros, moins je vais perdre les possibilités de régénérer ce que j'ai amputé. En particulier, si je commence à taper sur des racines charpentières, ben je suis sûre que je perds potentiellement, dans beaucoup de cas, la compétence de refaire des racines charpentières. Donc, je vais arroser ma plante, je vais la mettre dans une situation d'équilibre pendant un certain temps, mais au bout d'un certain temps, elle peut éventuellement ne pas être capable de refabriquer un système racinaire charpentier. Et si vous avez une période de confortement au niveau de vos plantations qui est assez longue, eh bien, vous arrosez pendant 3 ans. 3 ans, c'est comme ça chez nous. Je ne sais pas quelles sont les normes chez vous. 3 ans. Pour un arbre qui est planté en 2025, c'est largement insuffisant pour qu'il puisse vous exprimer sa capacité à régénérer un système racinaire. Vous arrêtez au bout de 3 ans. Si vous êtes dans un climat favorable, suffisamment humide, ça va bien se passer. Si vous faites ça chez moi, c'est bon, hein, ça se casse la figure assez rapidement. Donc on rate beaucoup de plantations parce qu'on plante trop gros. Et on n'a pas besoin d'incriminer les mauvaises pépinières de certaines régions. Quand on commence à vraiment diagnostiquer ce qu'un système racinaire est capable de subir et de donner au fur et à mesure des transplantations successives, en allant analyser dans les mottes ce qu'on plante quand on achète un arbre en motte, ben là on est quand même sur un chantier plutôt prestigieux, puisque c'est l'allée de la Reine Sud à Versailles. C'est pas le pire des coins. On sait bien rater les arbres dans toutes les situations, parce qu'on prend des arbres qui sont trop gros. Donc voilà. Alors, On a une problématique d'intégration du changement climatique, je crois qu'on se la vit tous pleine face en ce moment, vraiment. Et notre problématique, c'est effectivement d'arriver à améliorer les techniques de plantation des arbres en ville, à leur offrir toutes les ressources nécessaires à leur installation, et on a évoqué un certain nombre de choses. Le mélange Stockholm, on en a bien parlé. On a effectivement parlé du biochar. On peut parler d'autres systèmes qui sont en vogue actuellement. Le mélange terre-pierre, c'est la déclinaison première qu'on a eue en France du système Stockholm, très appauvri par rapport au système Stockholm, hein, parce qu'on a infiltré pas l'eau dans le mélange terre-pierre. Mais bon, c'est quelque chose qui a été créé à Angers par un système de routiers, hein, c'est les gens des routes qui ont créé le mélange terre-pierre. Et puis il y a Triparker, je n'irai pas plus loin. Voilà. Et il y a aussi l'objectif d'améliorer le choix des espèces et les techniques de production. Il faut, en fait, bien sûr, travailler le système de plantation, mais je crois que l'avenir, il est aussi dans le système de production des plants et dans la sélection d'espèces, alors des futures espèces qui vont pouvoir s'implanter chez nous. Alors on fait les travaux pratiques pour vous dans quelques années, nous, parce que le changement climatique, on se le prend bien pleine face, hein, dans le midi de la France. Mais nos collègues espagnols et italiens se le prennent depuis un moment. Donc effectivement, on va être un peu contraints de tenir compte des plasticités spécifiques des espèces. Et les plasticités spécifiques, s'il y a un endroit où il faut les analyser dans les plantes, c'est dans la partie racinaire. Il faut arrêter, j'abonde dans ce qui a été dit précédemment, il faut arrêter de ne regarder la plante que par sa partie aérienne. Vous allez dire, je vends ma sauce, vous avez raison, après tout, pourquoi pas. Ça fait tellement de temps qu'on regarde les plantes que par le haut, donc je pense que c'est vraiment le moment de les revoir par le bas. Et puis il faut adapter les normes. Les normes, il faut les faire spécifiques. Une norme, ça a un intérêt, mais la diversité végétale, les normes, elle ne les connaît pas. Donc vous avez des espèces qui vont pouvoir répondre à des opérations de taille et de production, de systèmes de production en pépinière qui pourront marcher, puis il y en a d'autres, ça ne marchera pas du tout. Donc il faut revenir vers les compétences des plantes, pas pour s'adapter aux normes, mais quelles normes il faut définir pour sélectionner certains végétaux et des modes de production qui soient adaptés. Et l'objectif, c'est de faire des enracinements de plus en plus profonds. Or, les manières de produire les arbres en ville ont tendance, au contraire, à faire des galettes. Et donc, on va avoir un gros problème. Alors, là aussi, je vends un peu ma sauce, mais je suis là, et je ne sais pas si je reviendrai, donc c'est un peu normal que je le dise. Pour nous, l'objectif, vraiment, c'est d'arriver à revenir sur les chantiers de plantation pour diagnostiquer la manière dont la plante a repris. Alors, avec mon collègue Caraglion, on en a eu assez des acronymes qui faisaient beaucoup de bruit. On s'est dit, on va prendre le nôtre. Un jour de deuxième mi-temps après un repas, on s'est dit, allez, on va dire un truc qui va être lire l'arbre avant d'agir. Voilà, la méthode LACUBE, ça fait très chier. Non. C'est quoi? C'est revenir sur nos plantations, analyser avec des éléments de diagnostic les parties aériennes et les parties racinaires et l'analyse architecturale telle que je l'ai biberonnée, moi, à travers les enseignements que Francis Allais et Claude Edelin ont pu me donner, me permet d'être capable de faire une analyse de la plante entière avec la même méthodologie, avec les mêmes outils. Je vais pouvoir diagnostiquer quel est l'état de la partie aérienne et quel est l'état de la partie racinaire. Et donc, analyser le développement de la plante entière, ce qui me paraît le plus urgent à mettre en place systématiquement, et c'est une méthode que j'utilise moi dans mon activité professionnelle de bureau d'études au quotidien, hein, et analyser donc le développement de la plante par rapport à ses interactions avec le milieu, par rapport aux contraintes qu'il subit, et une des contraintes, c'est le parcours de production, et puis le parcours d'installation de ma plante dans mon environnement urbain. Et je vous montre ici des images de systèmes racinaires qui ont été déracinés sur le site de la Cité internationale à Lyon. Je reviendrai, je peux vous citer un certain nombre d'écrits qui sont présents dans le site de Plantécité France, mais comme vous êtes une antenne de Plantécité France, vous avez accès à toutes ces publications qui concernent ce gros site expérimental qu'a été la Cité internationale à Lyon. Voilà, et puis j'ai une activité de recherche aussi dans un laboratoire, hein, et je case aussi mes petits camarades. Donc on est en train de travailler en fait sur des modèles de croissance de végétaux, Et on est en train de travailler en fait les premiers modèles qui intègrent réellement la plante entière, pas uniquement sous la forme d'un compartiment entrée d'eau et un compartiment qui serait photosynthèse, mais sous une autre forme. Et donc là, ce sont les premières images de simulation qui ont été fournies par mon collègue Jean-François Barzy à la suite d'études qu'on a faites en Guyane française sur du tech. C'est pas forcément ce qui nous intéresse ici. Mais ça vous montre qu'on est capable d'évaluer et d'avoir des modèles de croissance qui nous permettent, en fait, de modéliser le comportement de la partie aérienne et de la partie racinaire en appliquant des contraintes différentes. Alors là, ici, on est sur du déficit hydrique. Et là, ici, on est sur du déficit de lumière. Et vous constatez que la réponse de la plante n'est pas la même en fonction du déficit hydrique ou du déficit de lumière. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour terminer. Je vous remercie de votre attention.
Alors, merci beaucoup Claire pour cette démonstration magistrale. Et je retiendrai principalement le fait qu'on ne met pas les plantes dans un tiroir, mais qu'on adapte la plante à un lieu et à un sol, évidemment, avec toutes les compétences et les connaissances croisées qu'on est en mesure de réunir. En tout cas, merci beaucoup. Je me vois dans l'obligation de passer le micro aux dernières présentations, dernière présentation, Marie Palmant et Emmanuel Gras. Marie Palmant qui est dans un groupe de recherche sol et substrat avec Lionel Chabet ici présent dans le groupe de Pascal Boivin pour EPIA et puis Emmanuel Gras qui est chargé des grands travaux pour le SPADOM de la ville de Lausanne. Voilà, merci beaucoup de nous parler d'une application, d'une contextualisation d'un système inspiré de celui de Embrun, de Björn Embrun à la ville de Lausanne. Merci beaucoup d'avance pour votre intervention. Passe la parole à Marie, c'est toi qui commences.
C'est moi qui commence, oui. J'ai le micro là. Merci Eric. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette matinée. Il vient de présentation en nombre, vous êtes impressionnants. On va donc vous parler avec Emmanuel en effet d'une expérience qui est en cours de réalisation à Lausanne et donc qui intègre des arbres, de l'eau et du biochar. Avant néanmoins de plonger dans le vif du sujet, je voulais juste réaborder un peu le contexte d'hydrologie urbaine, du moins en Suisse, avec revenir notamment sur la VSA de 2008, qui priorise la gestion des eaux de ruissellement en milieu construit par son infiltration dans un sol dit biologiquement actif. Or, eh bien, cela est aujourd'hui malheureusement très peu réalisé, au motif effectivement que les cœurs des villes ne comporte que très peu, ou voire pas de, enfin, disons très peu de sol. En effet, ces derniers rencontrent diverses problématiques, comme on a pu le voir tout au long de la matinée, notamment une imperméabilisation croissante. Ils sont de plus discontinus, et puis avec des matériaux généralement de mauvaise qualité, tassés, pollués, etc. Et donc, du coup, tout ça nous amène à un risque hydrologique accru lorsqu'on fait face à de très fortes précipitations, comme on a pu le voir notamment en 2015, là, avec la crue de larves, et puis plus récemment avec les inondations à Genève, là notamment dans la photo, c'est l'inondation du parking de Plainpalais. Et donc, plusieurs solutions existent pour faire face à cette problématique. Notamment, on peut mettre en place une gestion dite décentralisée, c'est-à-dire qu'on crée, comme il a été fait en Californie par exemple, des grands bassins d'infiltration dans lesquels les eaux météoriques sont amenées. Et puis, on peut aussi travailler, comme on l'a vu également ce matin avec la présentation de M. Embrun, sur une gestion qui est délocalisée cette fois avec l'infiltration dans les fosses de plantation. Et c'est ce dont nous allons également vous parler avec Emmanuel. Ok, je laisse la parole pour la suite.
Merci, Marie. Alors oui, ce projet de recherche, en tout cas cette expérience en cours, de quoi elle est partie? Il y a 3 ans, j'ai récupéré la charge et la chance de coordonner le développement de tout l'éco-quartier des Plaines du Loup, dans le nord de la ville. Alors le plan qui est là, c'est la première étape, c'est 10 hectares, 3200 habitants emploi. C'est un nouveau plan d'affectation qui a été fait en 2012. Et son article 12, il est plein de bonnes intentions, comme l'enfer en est pavé. Il nous dit qu'on doit appliquer la réglementation usuelle, à savoir faire de la rétention d'eau pour 100% des espaces d'aménagement extérieur, y compris domaine public, à hauteur d'un débit de restitution de 20 litres seconde hectare et avec un dimensionnement de 340 m3 par hectare. 340 mètres cubes par hectare, si on fait vite un petit calcul, c'est 34 litres par mètre carré. Je crois que M. Bachmann nous rappelait dans sa présentation tout à l'heure que l'orage du 11 juin 2018 à Lausanne, c'était 40 litres par mètre carré. Donc, ce n'est pas significativement différent. L'idée, c'est de pouvoir stocker ça sur place et de le restituer le plus gentiment possible. Alors, on imagine bien qu'à l'échelle d'un quartier qui a une densité qui ressemble peu ou prou à celle du quartier Sougar à Lausanne, pour ceux qui visualisent, c'est un petit peu moins que les rues basses, par exemple, à Genève, mais c'est quand même super dense. Ben, ce n'est pas si simple. Donc, comment ça s'est passé? On s'est dit, ben, d'abord, on va regarder les sols qu'on a. Alors, c'est des anciens terrains de football qui ont été faits sur des remblais des années 50. Je ne crois pas que c'est notre pédologue cantonal qui va me contredire si je dis que c'est des sols, on va dire, de piètre qualité. Ils sont à peu près, je ne veux pas dire imperméables, parce qu'on peut juste pas faire de la poterie avec, mais c'est la porte à côté. Donc, il n'y a pas d'infiltration possible, en tout cas pas dans les temporalités qui nous intéressent pour gérer les événements pluvieux. Donc, on a nos ingénieurs qui nous ont dit, pas de problème, on a la solution. Évidemment, on fait des grands bassins enterrés, ça coûte à peu près 2 millions à l'échelle du PPA, et puis ça prend la place des racines, donc on pourra planter un peu moins d'arbres. C'est une vraie solution pour un écoquartier. Donc, on s'est dit qu'on allait chercher autre chose, peut-être. Voilà. Donc, on a malheureusement oublié de faire une deuxième mi-temps après un repas arrosé, mais on a quand même essayé d'imaginer un truc. Et on s'est dit, ben, on va essayer d'infiltrer ailleurs. Alors, après, j'ai retrouvé cette carte dans une autre étude, mais je crois que très récemment, et puis j'ai vu Emmanuel Bonnemaison tout à l'heure, je ne sais pas où elle est. Donc, voilà, j'ai profité, je voulais te citer, je ne savais pas que tu serais là, mais j'ai vu cette carte dans un mandat en cours qu'elle a pour la ville de Lausanne et qui est extraordinairement parlante. Parce que pour ceux qui. Présenté en bleu, c'est grosso modo les zones, très résumées, hein, qui sont propices à l'infiltration chez nous. Et en gros, on voit qu'il n'y a à peu près que le sud le bas de la ville et que même les grands massifs forestiers, il y a un pointeur là-dessus, les grands massifs forestiers du nord de la ville, qui sont Sauvablin et compagnie, ont des profondeurs de sol sur la molasse tellement faibles qu'ils ne sont même pas propices là à l'infiltration. Donc on a oublié et on s'est dit, on ne va pas infiltrer, tant pis. On va donc faire de la rétention d'eau, mais faire de la rétention d'eau qui peut cumuler les fonctions avec les arbres. Et on s'est demandé si on pouvait faire ça dans les phases de plantation normales. Donc on a regardé nos arbres. Et ça, c'est les arbres à Lausanne. Donc cette année, les deux photos de gauche, c'est cette année, celle de droite, c'est de l'année précédente. On voit que même dans une année qui n'est pas la plus caniculaire, on a des arbres qui font des dessèchements de charpentières. Alors, il n'y a pas que l'eau. Hein. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'air non plus, puis qu'ils ont d'abord besoin d'air avant d'avoir besoin d'eau. Mais enfin bon, ils ne vont pas bien. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée peut-être de cumuler ces fonctions. Ça pourrait nous rendre service aussi ailleurs en ville. Et puis, en continuant à réfléchir, on est tombé sur l'excellente publication que vous connaissez tous de Nos Arbres, publiée l'année dernière. Et puis, sa recommandation numéro 1, hein, ce n'est pas la 5e à la 14e page, c'est la numéro 1, nous dit quand même qu'il faut assurer un volume nécessaire pour permettre aux arbres d'atteindre leur potentiel, un volume de 15 à 100 mètres cubes en fonction de la taille de l'arbre. Donc si après, on réfléchit un peu, c'est ce que la petite phrase en bas, et qu'on imagine un arbre d'avenue tous les 12 mètres, un arbre d'avenue qui doit être couronné à 4 mètres, que les voitures passent dessous un peu correctement, sur un trottoir de 3 mètres de large, si on prend 3 mètres de large fois 12 mètres, ça fait 36 mètres carrés par 1 mètre de profondeur, voilà, 36 mètres cubes par arbre, on est là-dedans. Mais sauf que quand on fait ça, on ne parle plus de fosse de plantation, parce qu'une fosse qui touche une autre fosse, qui touche une autre fosse, qui touche une autre fosse, c'est un technosol, en fait, c'est plus une fosse. Donc on arrête de parler de fosse, c'est un mot qu'on a banni au SPADOM dans tous les projets qu'on développe maintenant. Et puis les fosses, c'est l'ancienne école, et maintenant on essaye de parler de technosol. Les gens ne comprennent pas encore toujours, mais ils vont comprendre. Et puis, l'idée, c'est de leur montrer que c'est possible. Donc, cette idée de fosse à un pluvium, c'est de gérer l'eau en prenant la place en sous-sol. Il y a toujours cette guerre ou cette lutte pour utiliser le sol dans les villes. Donc, l'idée, c'est de reprendre la place en sous-sol de façon également vertueuse pour les arbres. Répondre aux contraintes de la gestion des eaux, ça c'est le point de départ de cette expérience. Accroître l'oxygénation des sols, parce qu'on voit que nos arbres réagissent assez mal à nos sols qui ont plus d'oxygène, c'est normal, nous aussi si on arrête de respirer on ne réagit pas très très bien. Conserver l'eau, c'est bien, je crois qu'on l'a entendu plusieurs fois ce matin, je l'ai remis ici dans la fin de la présentation, mais conserver l'eau sur place, c'est éviter de la traiter comme un déchet, mais surtout elle nous apporte après plein de conséquences vertueuses. Réaliser du stockage CO2 à long terme, je pense à peu près toutes les villes sont en train ou ont fini leur premier volet de plan climat, si on peut stocker du CO2 à long terme, ça permet d'additionner quelque chose de négatif dans le bilan carbone de la ville, ça intéresse passablement les politiques. Et puis finalement, boucler des cycles, puisque c'est toujours mieux de pouvoir boucler des cycles sur place que de les avoir à moitié ouverts. Donc je vais repasser la parole à Marie pour parler des principes qui ont été développés.
Oui, donc comme vous l'avez compris, on essaye effectivement de tendre vers la création d'un impluvium autour des fosses de plantation pour infiltrer les eaux météoriques. Et c'est ce sur quoi on s'est penché avant de voir que nos chers collègues suédois faisaient exactement la même chose depuis plus longtemps que nous. Et donc, comme on a pu le voir également ce matin, donc eux, ils travaillent beaucoup avec des matériaux très minérales et avec l'ajout de biochar. Donc le biochar, c'est donc ce matériau qui est créé à base de déchets verts pyrolysés et qui apporte de très très bonnes qualités, notamment de rétention en eau et de perméabilité, qui sont deux caractéristiques très intéressantes, en tout cas quand on parle d'infiltrer les eaux dans des fosses de plantation. Et puis nous, alors on travaille avec ce qu'on appelle du terra preta, qui est en réalité du biochar qui est composté. Et donc une fois composté, ce substrat, en plus d'avoir une très bonne rétention en eau, une bonne perméabilité, il a une très très bonne fertilité, ce qui est également une caractéristique qui est intéressante quand on parle de l'utiliser dans les fosses de plantation. Il est en plus non compactable et a des capacités épuratives, ce qui est donc effectivement un joli combo. On a à l'heure actuelle plusieurs projets qui sont réalisés sur cette base. Le premier à Genève se passe à la rue du Trèfle Blanc, où il y a plusieurs arbres, une nouvelle plantation qui a été faite, et il y a une comparaison qui est réalisée sur le taux de croissance des arbres, dont certains sont plantés en fosse avec du substrat terra preta, et d'autres dans des fosses traditionnelles. Et donc on compare la croissance de l'arbre et ses besoins en eau. On a également à Erlaville des fosses de plantation qui sont réalisées cette fois dans un mélange terra preta pierre. Donc un peu comme, c'est du terre-pierre, sauf qu'à la place de la terre, on a du terra preta. Et donc dans ces deux projets-là, on suit que l'évolution, que la croissance et les besoins en eau des arbres, et donc il n'y a pas d'infiltration qui est faite. C'est là où aujourd'hui on essaye de faire un pas en avant finalement avec le projet qu'on mène conjointement avec Lausanne, où on essaye on met en place une infiltration des eaux météoriques dans les fosses de plantation. Donc on est à l'heure actuelle au projet pilote, à la phase pilote, dont vous avez le schéma là sous les yeux. Globalement, on se base énormément sur ce que le système de Stockholm propose, avec des ouvrages, je peux peut-être essayer de vous le montrer là, des ouvrages ici de récolte des eaux météoriques dans lesquelles l'eau arrive. Elle s'infiltre ensuite dans... Il y a une première couche ici drainante de gravier, 32-50, si mes souvenirs sont bons. Et donc une couche qui va permettre à l'eau de se déployer dans la fosse et puis ensuite de ruisseler et percoler dans le système terra preta pierre ici. Nous, on utilise du mélange... Donc le mélange terra preta est composé de 70% de biochar et 30% de compost. Et donc c'est ici... l'eau poursuit son chemin et donc arrive dans ce mélange-là, où elle est retenue et où se trouvent les racines. L'eau en supplément est ensuite drainée en fond et en bas de fosse et est évacuée si surplus il y a. Donc les objectifs de ce premier projet pilote sont en effet de déterminer la capacité de stockage et d'infiltration du système. Étant donné que c'est la première fois qu'on fait ça chez nous, tout est encore à découvrir. De tester les mélanges et leur mise en place. Et puis notamment de répondre aux questions de traitement de pente dans des villes comme Lausanne, effectivement, où on veut éviter le jet d'eau en bas de pente, et donc de voir comment est-ce que le système réagit lors de fortes crues, et s'il y a besoin de compartimentation dans le système ou non. Et le tout, du coup, pour une mise en place à plus large échelle, notamment dans le projet des Plaines du Loup, qui seront réalisés dans les prochaines années. Et puis, en parallèle à ce projet pilote, il y a des tests qui sont réalisés sur une maquette miniature. Et puis, les projections qui ont été réalisées, en tout cas sur cette maquette à l'heure actuelle, nous montrent les possibilités, en tout cas, de volume de rétention de 250 litres par mètre cube de fosse. qu'en travaillant sur les micro- et les macro-porosités du système, eh bien, on atteint environ 60% de l'eau en drainage rapide. Et puis, les 40% restants, sur les 40% restants, eh bien, il y a 14% d'eau qui est facilement disponible pour les plantes. Et puis, on arrive très bien à... la vidange du système se fait en environ 4 heures, ce qui répond aux normes et aux besoins actuels posés par les hydrolyciens. Et donc, les perspectives sont les suivantes, avec tous les chiffres qu'on a aujourd'hui accumulés. Eh bien, on envisage le traitement de la crue de temps de retour 10 ans. En travaillant avec du substrat, avec le substrat Terra Preta, on augmente les volumes disponibles de rétention en eau de l'ordre de 3 fois par rapport à un drainage rapide simple. Et puis tout ça nous amène à espérer du moins aucun rejet en période estivale en fond de fosse, avec les grosses précipitations du moins de la période estivale. Tout ça en respectant les normes et en répondant aux contraintes des hydrauliciens, et puis en étant vertueux pour les plantations urbaines.
Donc les mises en œuvre et les suites, en termes de temporalité, vous l'avez entendu, vous avez vu l'image, on est en train de faire des vérifications en laboratoire, ça c'est maintenant. On a une mise en œuvre sur un chantier pilote qui est en cours. Alors il y avait pour certains d'entre vous qui avaient manifesté leur intérêt, qui étaient au courant, on était censé faire une visite demain matin de cette mise en œuvre. Alors pour des questions météorologiques, parce que c'est pas terrible depuis quelques temps, le Terra Preta est trop mouillé, on n'arrive pas à le mettre en place comme il faut. Donc on a reporté à une date pas encore connue la mise en place de ça, mais enfin ça continue et c'est vraiment en cours, donc c'est vraiment l'objectif de finir ça le plus vite possible pour pouvoir ensuite monitorer en 2021-2022 le comportement de cette fosse, le comportement des plantes, finalement c'est quelque chose de directement visible, mais aussi le comportement de l'eau dans la fosse. On doit quand même répondre et convaincre nos collègues du service de l'eau que le système fonctionne. Et puis, le premier objectif, vous l'avez compris, c'est la mise en œuvre dans le cadre de l'écoquartier des Plaines du Loup, donc c'est 2022-2025. Mais peut-être que c'est aussi pour une mise en place à large échelle dès 2022-2023 dans l'ensemble des plantations qui le permettraient en ville. On renouvelle chaque année entre 100 et 300 arbres d'avenue à Lausanne. Si on pouvait faire ça à grande échelle, on peut imaginer que dans 10 ans, si on a fait 2000 arbres d'avenue comme ça, on pourrait déjà avoir soulagé passablement le système unitaire d'évacuation d'eau du centre-ville. En guise de conclusion, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites aujourd'hui, donc beaucoup de choses sont redites encore ici, mais rendre les villes plus perméables, c'est évidemment une bonne chose. Réduire le risque de surcharge hydraulique, c'est d'autant plus une bonne chose. Je pense qu'on a eu dans le premier exposé ce matin, les coûts sont vraiment importants pour les collectivités, donc les arbres, ça ne coûte pas si cher. Avec des sols actifs et de bonne qualité, on a parlé de la biodiversité du sol. Je pense qu'effectivement, avoir des sols actifs et de bonne qualité, c'est nécessaire pour avoir des plantes qui sont résilientes et qui apportent aussi leurs bénéfices écosystémiques pour les villes. Favoriser la croissance des arbres, on a parlé d'urgence climatique aujourd'hui. Je pense qu'à peu près toutes les villes aujourd'hui sont en train d'essayer d'augmenter, si ce n'est de doubler leur canopée d'ici 2040, puisqu'on s'est à peu près tous fixé ce seuil comme étant l'étape à atteindre pour être résilient face au changement climatique. Donc on n'a plus tellement le temps d'attendre avec des arbres qui poussent de 2 cm par année, ça ne va pas le faire. Et puis, ne plus utiliser de terre végétale pour verdir les villes, on n'en a pas beaucoup parlé ce matin, mais tant qu'on utilise de la terre végétale pour verdir les villes, c'est qu'on met du béton pour griser les campagnes, parce qu'elles ne se créent pas. Donc verdir les villes avec de la terre végétale, c'est comme s'enfermer dans un petit carcan sympa en reportant la charge sur les autres. Donc il ne faut plus faire ça. Si on a de la terre, on peut l'utiliser, mais si on n'en a pas, il ne faut pas aller en chercher. Sinon, c'est reporter la contrainte sur autrui. Et puis, in fine, ça a déjà été dit, mais reconsidérer l'eau comme une ressource et plus comme un déchet. Si on fait ça, on aura fait juste.
Plaisir de terminer avec votre présentation. Toute la matinée, on est passé du macro et là, on est dans une expérimentation en temps réel avec un échange entre différents partenaires pour une collectivité qui fait la part belle aux collaborations, écoles, administration publique, bureaux privés, ingénierie. Vraiment un magnifique exemple pour terminer, conclure cette journée. Je m'excuse de devoir un peu précipiter les choses. Je crois que je peux prendre une, deux questions peut-être. Et je suis sûr qu'il y en aura énormément. On va pouvoir beaucoup, donc toutes les présentations sont mises en ligne. Claire Adjéa l'a bien précisé, sur Plantécité, vous trouverez toutes les publications dont elle est l'auteur. Elle ne nous laisse pas sa présentation. Si, oui, alors je reviens sur ce que j'ai dit. Vous aurez aussi la présentation de Claire Adjéa. En attendant, je tends le micro à Boris.
Bonjour, j'ai une première question concernant l'exposé qui vient de passer. On a vu que vous repreniez le principe Stockholm, enfin mis à la mode suisse, mais le même principe. Il y a juste quelque chose qui m'a interloqué, c'est que vous mettez l'évacuation des eaux en surplus en fond de fosse. C'est-à-dire que, en gros, on ne va pas stocker l'eau, elle va arriver, elle va se ralentir, on va dire, dans ce système-là, et pour finir par être totalement évacuée. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, la méthode Stockholm, c'est l'inverse, c'est qu'on laisse ces fosses se remplir, elles n'ont pas d'évacuation, et c'est que l'eau qui arrive en trop qui est évacuée. Et je voulais savoir pourquoi vous avez fait ce choix-là plutôt que l'un de l'autre.
Alors, à Stockholm, ils ont une immense chance d'avoir des sous-sols qui sont perméables. Et donc, ils ont l'immense pas de chance de ne pas pouvoir faire de la poterie. Nous, c'est l'inverse. Je pense que vous faites allusion à ce slide-là. On voit effectivement un petit bout de drain ici. Alors, c'est aussi la coupe qui est comme ça. Réellement, on a construit 1,50 m de drain. C'est juste pour collecter l'eau qui va au système de débit contrôlé, puisqu'on a cette contrainte d'évacuer l'eau par débit contrôlé de 20 litres seconde par hectare, et on a la contrainte d'avoir vidé la macroporosité, donc le drainage rapide, en 20 litres seconde hectare, donc ce qui fait à peu près 4h40, pour absorber l'événement pluvieux suivant. Ça, c'est la contrainte réglementaire à laquelle on doit se plier, parce que si on n'arrive pas à s'y plier, eh ben, on doit faire des bassins de rétention en béton qui, eux, sont capables de se vider en 4h40 à 20 secondes d'hectare. Donc l'idée, c'est d'utiliser vraiment, de dimensionner la fosse sur ses capacités de drainage rapide qui ont la capacité de se vider en 4h40. Et c'est pour ça qu'on a ce dispositif. Puis on a un trop-plein là en haut qui correspond à peu près à la hauteur du haut de la couche d'aération, parce que si tout à coup, on a une pluie plus importante, ben, il faut que ça puisse déborder. Alors nous, on n'a pas la chance d'avoir l'ancien système d'évacuation présent sur la route, et du coup, on a un système de trop-plein, parce que ça va se mettre en charge dans la chambre, arriver dans le trop-plein et partir là sans débit contrôlé. C'est comme ça qu'on l'a imaginé. C'est toute la difficulté, c'est d'adapter le système qui marche tellement bien à Stockholm, dans une ville avec un fond perméable et une ville relativement plate, dans une ville en pente avec des sous-sols imperméables.
Oui, pour conclure, on revient à des principes où on ne va pas utiliser des modèles, mais on utilise des solutions adaptées à un lieu. Voilà. Moi, je vais conclure par ces quelques mots. Merci vraiment pour vos présentations. Je suis obligé de passer à la question un peu plus formelle de la suite de la journée. Donc, pour cela, je vais dire... Je vais donc vous donner un peu le fonctionnement de la partie qui suit. Donc vous avez tous reçu des tickets pour pouvoir, toutes celles et ceux qui ont reçu des cartes pour pouvoir manger, vous êtes à partir de maintenant bienvenue dans le Café Prairie pour choisir le repas de votre choix. Choisir de votre choix, ça va être un super choix sûrement. Et ceci entre maintenant et 2h. 2h, c'était la date, c'est l'heure à laquelle vous allez devoir vous diriger vers le moyen de transport qui va vous permettre de vous rendre sur les lieux que vous avez choisis. J'espère qu'ils correspondent au lieu que vous avez réellement choisi. Il nous a été des fois obligé d'équilibrer les groupes. On est nombreux, on est plus de 140 à avoir choisi ces visites, ce qui fait des groupes, on a divisé en 4 groupes de 35 personnes environ, raison pour laquelle j'espère que certains ne seront pas déçus si tout d'un coup votre choix n'a pas été respecté au premier chef. Mais quant à vous, essayez de respecter les destinations pour éviter des disparités trop importantes entre groupes. Donc vous aviez deux choix, celui d'aller dans le quartier des Vergers de Meyrin, et pour cela vous avez sur votre document des horaires. Vous voyez, vous avez, en fonction de l'étiquette que vous avez une couleur qui vous donne le lieu de rendez-vous. À Meyrin, il y a deux lieux de rendez-vous, c'est deux trams différents, le tram 18 ou le tram 14. Vous avez les heures de départ des PIA et l'heure de départ du tram pour ceux qui prennent le transport public. Pour ceux qui s'y rendent par leurs propres moyens, vélo, moto, voiture, ce qui est moins recommandé, le rendez-vous est à 2h30 sur place. Concernant, donc il y a deux groupes qui font le même tracé, mais le point de départ diffère et vous allez vous croiser à mi-chemin. Pour les personnes qui ont choisi le parcours SEVA, les gares SEVA, eh bien là aussi, vous y rendez avec les moyens de transport que vous avez choisis. Et vous avez aussi l'horaire de départ, mais qui est, lui, depuis la gare Cornavin, en utilisant depuis la voie 2, la rame SEVA SL2, avec des horaires de départ qui est le même pour les deux, de 14h17. Et le groupe descend à Champel, à son arrivée à Champel. Et celui qui va jusqu'à Schaenbourg descendra à Schaenbourg. Et à au milieu de l'après-midi, trois quarts d'heure plus tard, vous avez un autre train qui va vous permettre de switcher. Et pour ceux qui étaient à Schaenbourg, d'aller à 15h24 vous rendre au plateau de Champel. Et ceux qui étaient au plateau de Champel, à 15h29 vous rendre pour Schaenbourg. Dans tous ces endroits, vous serez attendus sur ces lieux de rendez-vous par une équipe de personnes qui vont vous orienter, vous guider, vous accompagner. Il y aura chaque fois un représentant de Plantécité et puis des guides qui vous seront présentés à ce moment-là sur place. La question des tickets. Vous avez des tickets de transport public que vous avez demandé, qui vous seront distribués à la sortie. Donc, tous ceux qui sont inscrits, prenez-le au passage avant d'aller manger. Et ensuite, rendez-vous sur place par les moyens de transport que vous avez choisis. Merci, bon appétit et à tout à l'heure.